donc, qui est basé sur ce texte des Colossiens. On va donc continuer ce que j'avais commencé, notamment sur cette notion qu'on avait regardée ensemble déjà la semaine dernière. Et pour introduire ce partage de ce matin, je vais lire avec vous ce texte de Galates 6, versets 1 à 5. Je suis quand même assez impressionné, je vais dire ça comme ça, par l'importance que Dieu attache à nos relations les uns avec les autres. Je me rends compte en lisant la Bible à quel point c'est important aux yeux de Dieu la façon dont on vit les choses les uns avec les autres. Et je vous avais déjà partagé la semaine dernière, en fait, dans pourquoi est-ce que Dieu veut et est attaché à ces notions-là. Eh bien, je vous avais dit, mais on va le redécouvrir dans ce qu'on va voir ce matin, s'il y a vraiment dans le cœur de Dieu cet amour ardent, déjà pour chacun de nous, et puis dans le cœur de Dieu ce désir que nous puissions vivre aussi entre nous cette dimension d'amour. Une des caractéristiques de l'amour de Dieu, c'est qu'il est plutôt inconditionnel. C'est-à-dire que Dieu ne nous aime pas, il ne va pas nous aimer parce qu'on va faire quelque chose, ou il ne va pas arrêter de nous aimer parce que on ne sera pas au carré devant sa face. Maintenant, il y a des conséquences, on va le voir. Mais en tout cas, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne va pas mettre des conditions à son amour. Il ne va pas dire, voilà, je t'aime si tu es gentil avec moi. Et Dieu nous aime, point. Et en fait, la référence pour notre vécu, pour notre vie, pour la façon dont Dieu est intéressé à ce qu'on vive les choses, eh bien, c'est que nous aussi, on ait cet amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on aime sans poser de conditions. Qu'on va aimer notre frère ou notre sœur ou ceux qui nous entourent sans poser de conditions. On aime gratuitement, si je puis dire ainsi. Après, c'est sûr que le fait que si on aime ou si on n'aime pas, évidemment, il y a des conditions, il y a des conséquences plutôt. Alors, pour repartir dans le vif du sujet de ce texte de Colossiens que je vous rappellerai juste après, on va lire ce texte de Galates, chapitre 6, versets 1 à 5. Je ne sais pas si vous arriverez à lire parce que je m'aperçois que c'est petit quand même, mais on va lire ensemble mes frères. Donc, mes frères, ça veut dire que là, ce texte, encore une fois, eh bien, on est dans le cadre de l'Église. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne doit pas le vivre en dehors de l'Église, mais ça c'est autre chose. Là, on va parler de l'Église. Donc, mes frères et mes sœurs. Je vous rappelle de nouveau que quand on parle ici de mes frères, c'est tout le monde, c'est-à-dire c'est les frères et les sœurs. S'il arrivait à quelqu'un, par mégarde, de faire un faux pas, si cédant à une impulsion soudaine, il tombait dans quelque faute et que vous veniez à le découvrir, alors, agissez à son égard en homme spirituel sous la conduite de l'Esprit. Première parenthèse, c'est-à-dire qu'ici, Paul va dire aux Galates ça arrive aux uns et aux autres, certainement ça vous arrive à vous, ça peut m'arriver à moi, à un moment donné dans ma vie, d'avoir un comportement qui n'est pas juste ou qui n'est pas conforme à ce que Dieu désire, ou en tout cas qui n'est pas conforme dans le sens où j'ai peut-être un comportement qui ne reflète pas le fait que je suis un ambassadeur de Jésus-Christ, ou pour le dire autrement, le fait que je dois être comme ce Christ sur terre. J'ai employé l'expression être un petit Christ. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, il peut arriver, à cause de notre nature adamique, je vais dire, de tomber dans quelque faute, de faire quelque chose qui n'est pas juste. Eh bien, ici, Paul va dire, si ça arrive, agissez à son égard en homme spirituel. C'est-à-dire, n'agissez pas avec votre nature charnelle, sous l'impulsion de votre nature charnelle. Agissez en homme spirituel. Agissez sous la conduite de l'Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu. Et il va détailler, justement, il va donner une couleur à ce qu'il est en train de dire en disant « Ramenez-le avec affection et douceur dans le droit chemin. » C'est-à-dire que l'homme spirituel que je suis n'est pas celui qui, quand je vois la faute dans le vécu de l'autre, je ne suis pas celui qui va le juger pour le condamner. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire comme si on ne voit rien. Ce n'est pas ça que dit Paul. Il dit que on doit ma conduite d'un homme spirituel, c'est exactement comme la conduite de Dieu vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que quand nous fautons, qu'est-ce que fait Dieu avec nous? Est-ce qu'il nous enfonce la tête dans le sable? Non. Dieu fait tout pour qu'on puisse nous relever, pour qu'on soit relevé. Alors, quelquefois, c'est vrai, pour qu'on puisse comprendre les choses, eh bien, Dieu permet qu'on ait des difficultés dans notre vie. Mais à chaque fois, quand Dieu agit, c'est toujours dans une dimension d'amour. Et donc, ici, Paul va dire aux Galates, voilà, si tu vois ton frère ou ta sœur qui a commis une faute ou qui n'a pas une attitude conforme à la pensée de Dieu, alors ramène-le. Enfin, fais-lui comprendre qu'il est en train de se tromper, pas en lui donnant des coups de bâton, mais avec affection, avec douceur, ramène-le dans le droit chemin. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément attaché à notre nature humaine, à notre nature adamique, je vais le dire, hein, parce que notre nature, on l'a vu, hein, elle est changée, transformée justement par l'Esprit de Dieu en nous. Donc, notre attitude, quand on voit quelqu'un qui chute, quand on voit quelqu'un qui est en train de se tromper, c'est en aucun cas, encore une fois, lui donner des coups de bâton, mais notre responsabilité, c'est d'aimer tellement cette personne, ce frère, cette sœur ou cet ami, et puis tout faire avec beaucoup d'amour pour qu'il puisse comprendre qu'il est en train de se tromper. Et ici, Paul va dire que la responsabilité, c'est de le ramener avec beaucoup d'affection dans la douceur du droit chemin. Et puis, il va continuer en disant, en tout cas, en évitant tout sentiment de supériorité. C'est-à-dire en ne se croyant pas supérieur à l'autre. Il est en train de tomber, moi je suis supérieur, parce que moi je n'ai pas tombé. Ça, c'est peut-être notre cœur humain qui peut réagir comme ça. Mais quand mon cœur est rempli, conduit par l'Esprit de Dieu, je ne réagis pas comme ça. Et il va dire, et soyez vous-même sur vos gardes, de crainte d'être toi aussi induit en tentation. D'ailleurs, qui d'entre nous peut dire, moi, je n'ai jamais chuté. Moi, je suis jamais tombé dans la tentation. Moi, je fais toujours tout bien. Je crois que ici, les quelques-uns que nous sommes, aucun d'entre nous pourrait dire ceci. Il est arrivé dans ma vie de ne pas être conforme, et il est arrivé dans votre vie, par exemple, de ne pas aimer comme Dieu nous demande d'aimer, par exemple. Alors, et du coup, Paul va de nouveau insister en disant « Mais alors, aidez-vous mutuellement à porter vos fardeaux. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Il veut toujours nous aider et il nous appelle à faire en sorte, plutôt que de tomber à bras raccourcis sur le frère ou la sœur qui est en train de pas être juste ou pas être droit, mais plutôt que de lui donner des coups de bâton, eh bien, il dit « Mais... aidez-le à porter à être débarrassé de ce qui n'est pas juste en lui, en l'aimant, en lui, comme on vient de le voir tout à l'heure, en le ramenant avec affection et douceur. Et puis, il va dire, Paul, supportez les fautes et les faiblesses des autres. Il ne dit pas qu'on doit agréer les fautes des autres ou le péché de l'autre. C'est pas, on doit pas, encore une fois, fermer les yeux si un frère ou une sœur est en train de pécher et on s'en rend compte. Eh bien, on doit pas fermer les yeux, mais au contraire, on doit aller vers cette personne avec douceur, avec affection, avec beaucoup d'amour, pour lui faire comprendre, afin qu'il puisse être délivré de ce qui, enfin, ce qui est mauvais en lui. Vous savez, quelquefois, on a des penchants. Et puis, c'est quelquefois difficile de s'en débarrasser, non? Alors, Paul dit supporter les fautes et les faiblesses des autres. On a tous les uns et les autres à se supporter, à supporter nos fautes et nos faiblesses. Mais pas pour... Paul ne dit pas « encourage enfin, les fautes et les faiblesses des autres ». C'est en aucun cas, on doit encourager, bien sûr, la faiblesse et les fautes de l'autre, mais voilà, on doit les supporter. Et puis, pourquoi ? Ben, parce que de cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. N'a-t-il pas lui-même porté nos fautes et nos faiblesses à la croix ? Il nous renvoie vers ce que nous sommes, nous. Et ça, cette phrase-là, elle est importante parce qu'on va le retrouver dans les textes que je vais vous partager ce matin au travers des paroles que Jésus va prononcer. Dieu, Jésus, a porté toutes nos fautes et toutes nos faiblesses. Sur la croix de Golgotha, il a payé pour chacun de nous. On ne devrait jamais oublier ça. Et ce que Paul dit ici, c'est que de la même façon que Jésus a porté nos fautes et nos péchés, a supporté nos fautes et nos péchés, eh bien, nous, on doit avoir conscience que, eh bien, on doit aussi supporter les poids et les faiblesses des autres. Alors, je sais pas si tu peux remonter un petit peu, mais au verset 4, hein, Paul va dire que chacun contrôle et juge d'abord son comportement et qu'il examine d'un œil critique sa vie et ses actions. Et s'il y découvre quelque aspect louable, eh bien que ce soit pour sa satisfaction personnelle, mais qu'il garde sa fierté pour lui et n'en fasse pas état devant les autres. Mesurez-vous par rapport à vous-même sans vous comparer à autrui. Car chacun aura à répondre pour lui-même et chacun portera le poids de ses propres actions. Vous savez, dans le jugement final, de toute façon, c'est ce qui va se passer. Alors, ne soyons pas dans ce texte, qu'est-ce qui se dit, c'est que peut-être qu'on peut se croire tellement supérieur aux autres, parce que nous, on a le sentiment peut-être que on est peut-être parfait, mais aucun d'entre nous, en fait, on est parfait, hein, on le sait bien. Mais donc, voilà. Paul va dire à un autre endroit, je ne l'ai pas cité là, mais qu'on doit se considérer comme étant, on doit considérer l'autre plutôt comme étant supérieur à nous-mêmes. Ce n'est pas le message que donne la société, encore plus aujourd'hui, et je ne pense pas que ce soit le message qui est véhiculé par notre nature adamique, vous savez, celle qui est influencée par l'ennemi de nos âmes, par Satan. Mais en tout cas, c'est le message que Dieu veut faire passer dans nos cœurs quand on est des hommes et des femmes spirituels. Alors, si tu peux passer à la page suivante, je vais juste vous rappeler le texte de Colossiens 3, au verset 13. Oui, 3, verset 13, tu y es là, tu peux le laisser, c'est bon. Si vous trouvez à critiquer en votre frère, portez et supportez-vous les uns les autres. Et si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêt à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Et ça revient, c'est la même chose qu'on a lu dans Galates. Et puis, c'est ce texte qui sert de support à tout ce que je vous partage depuis dimanche dernier. Je voulais juste vous rappeler ce verset, je vais pas le commenter. Hein, en fait, je viens de le faire au travers de Galates, hein, c'est la même chose. Alors, si tu peux de nouveau aller plus loin, on va reprendre ce texte de Luc. Justement, on va le relire parce que je l'avais déjà lu. Vas-y, continue à descendre, c'est la page suivante. Donc, comment ? Bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous le lire. Veillez donc sur vous-même et sur votre manière de vivre. Et puis, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, fais-lui des reproches en conséquence. Et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et puis, même s'il vient te trouver 7 fois de suite le même jour en disant « je me repens de ce que j'ai fait, alors pardonne-lui ». Donc ça, je vous l'avais commenté la semaine dernière. Et on va continuer. Donc là, on voit ici, c'est Jésus de nous. Là, maintenant, c'est Jésus qui dit les choses. Hein. Il dit, encore une fois, c'est ce que je vous disais déjà la semaine dernière, si on a peut-être du mal à croire l'apôtre Paul, eh bien, on peut au moins croire Jésus, quoi. Déjà, je ne pense pas que l'apôtre Paul s'est trompé en disant ce qu'on vient de lire précédemment, mais en tout cas, Jésus, de sa propre bouche, va donner cette attitude-là. Et je pense que c'est plus qu'un conseil que Dieu nous donne. Il nous donne ce que l'homme spirituel, l'homme touché par l'Esprit de Dieu, eh bien, doit vivre. Et puis, Jésus va donc dire dans ce texte, « Veille, fais attention sur ta façon de vivre. » Et puis, voilà. Ton frère, s'il s'est rendu coupable à ton frère ou ta sœur, s'il s'est rendu coupable à ton égard, c'est-à-dire s'il t'a fait du mal à toi, va lui faire des reproches en conséquence, et puis avec cette notion de vouloir pardonner. Donc on va, il dit ici, Jésus va dans ce texte dire, voilà, même s'il le fait 7 fois dans la même journée, pardonne-lui. Ça nous semble quelque chose de monstrueux, 7 fois dans la même journée, vous imaginez? Alors, on va prendre un texte suivant pour aller un peu plus loin, toujours de toute façon dans ce même état d'esprit, dans Matthieu 18. Et là, il y a quand même un certain nombre de choses qui nous sont laissées. Donc, c'est toujours dans la même pensée. Jésus va dire, s'il arrive à ton frère ou à ta sœur de commettre un péché contre toi, alors le « contre toi », c'est moi qui le rajoute, mais... la suite du texte nous fait bien comprendre que c'est ça. Donc, si quelqu'un vient me faire du mal à moi, ou si quelqu'un vient te faire du mal à toi, pêche contre toi, alors va le trouver, parle-lui en tête à tête et montre-lui sa faute. Parce que s'il se laisse convaincre, alors tu auras gagné ton frère. Je l'avais déjà abordé la semaine dernière, mais dans ce texte-là, on voit encore une fois cet amour incroyable de Dieu envers nous, mais aussi cet amour incroyable que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Je redis ce que je disais la semaine dernière parce que ça me semble important. Ce texte ne nous dit pas que ce qui est péché n'est pas péché. Ce texte ne dit pas que, encore une fois, si quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas grave, c'est pas mal. Si, c'est mal de faire du mal à l'autre, bien sûr. C'est pas juste de faire du mal à l'autre. Mais ce que dit ce texte, c'est que ton attitude d'homme ou de femme spirituelle doit être que quand quelqu'un te fait du mal, eh bien, va dire à celui qui est en train de te faire du mal ou à celui qui fait du mal, tu sais quoi, tu es en train de me faire mal. Je vous rappelle que dans les Colossiens, on voit que là, on est en train de parler dans le cadre de l'Église, entre frères et sœurs, donc entre des hommes et des femmes censés être remplis de l'Esprit de Dieu. En tout cas, à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et puis, donc je continue, au verset 16, va dire, « Et s'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes. » Et pour que tout ce qui est dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et puis, s'il refuse de t'écouter, encore une fois, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation. On voit là qu'il y a un degré, un échelonnement, il y a un processus. J'aimerais quand même attirer de nouveau l'attention de ce que Jésus... Quand Jésus dit ça, frères et sœurs, c'est vraiment pour notre bien, quoi. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de l'Église, c'est pour le bien de la communauté, c'est pour finalement le bien de tous. Et donc, dans ce processus qui n'est manifestement pas naturel, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Quand on vit... enfin, sans être cet homme ou cette femme spirituelle, si j'ose dire, quand on laisse notre nature adamique prendre le dessus, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un va faire une faute. Eh bien, à la limite, on va en parler à tout le monde, sauf à la personne. Hein, quand je dis à tout le monde, j'exagère. Hein. On va en parler peut-être à ceux avec qui, à nos amis, qui nous sont proches, nos frères et sœurs un peu plus proches. On va zapper une étape. On va zapper l'étape d'amour qui consiste à aller voir notre frère et notre sœur en lui disant « Tu sais quoi, tu es en train de me faire mal. Ou tu es en train de pécher. Ou tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas juste. » Et quand on va voir cette personne, si on ne zappe pas cette étape-là, encore une fois, ou quand on va voir la personne, eh bien, toujours dans ce contexte d'être rempli d'affection, de douceur, d'amour envers la personne, même quand elle nous fait du mal. J'aimerais vraiment insister sur le fait que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous, que c'est vraiment une dimension d'amour, que c'est vraiment aimer notre frère quand tu lui dis, quand on va dire à notre frère, tu sais quoi, tu es en train de me faire mal, tu sais quoi, tu es en train de pécher. C'est pas pour détruire le frère ou la sœur, mais c'est pour qu'il puisse comprendre, saisir et changer d'attitude. Si je lui dis pas à mon frère ou à ma sœur, comment est-ce qu'il va changer d'attitude? La première étape, frères et sœurs, que nous dit Jésus, c'est cette étape d'amour incroyable où on va voir, on le dit d'abord à la personne qui est concernée, avant éventuellement. Parce que si je le dis à la personne concernée, et puis que cette personne concernée, eh bien finalement, se reconnaît, me demande pardon, eh bien c'est tout, l'affaire en reste là. Je n'ai pas besoin d'aller le dire aux autres. Vous savez, je sais pas si j'aurai le temps. Mais on parlera des conséquences, justement, quand on ne suit pas ce processus qui est donné par Jésus. Alors, je vais continuer parce que je vois que l'heure avance là. Parce qu'il y a encore des choses à dire sur ce texte. Au verset 21, Pierre s'approche de Jésus et lui demande « Seigneur, si mon frère ne cesse de pécher contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Est-ce que je dois aller jusqu'à 7 fois ?» Ça, c'est Pierre avec sa nature, comme nous avec notre nature. Hein, rappelez-vous ce qu'on a lu dans Luc, hein, où Jésus va dire à ses disciples, vous devez pardonner jusqu'à 7 fois dans la même journée. Alors Pierre revient sur cette histoire et puis il pose la question à Jésus. Hein, voilà, si mon frère me fait du mal, eh bien, est-ce que je dois aller jusqu'à lui? Est-ce que vraiment je dois aller jusqu'à lui pardonner 7 fois? C'est quand même fort, Seigneur, c'est beaucoup. Et Jésus va lui répondre, lui dit non, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 70 fois 7 fois, si vous êtes fort en mathématiques, ça fait 470 fois. Enfin, ça veut dire toujours. Est-ce qu'on peut s'imaginer que quelqu'un puisse, dans la même journée, faire la même erreur 490 fois? Je pense que ça ne doit pas arriver souvent quand même. Mais en tout cas, c'est ce que Jésus dit. Il dit même, s'il le fait plusieurs fois, si à chaque fois, ça montre encore une fois la dimension d'amour de Jésus. Alors, pourquoi Jésus dit ça? Il nous l'explique en fait, après. On va le lire au verset 23, parce que là, Jésus va mettre en face une histoire. Et avant de vous lire, peut-être que, pour bien comprendre quand même l'importance que ça a pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour nos relations les uns envers les autres, et pour la communauté finalement en général, pour l'Église en général, comment je pourrais vous dire? Vous savez, les conseils, quand Dieu nous donne... nous demande d'obéir à cela, par exemple. Quelquefois, on pourrait penser que c'est où on peut ne pas comprendre. Comment je peux comprendre le fait d'aimer et pardonner dans ce cas de figure-là? Et je ne sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, je vais juste essayer de vous partager, par exemple, un enfant, un jeune enfant. Vous lui dites, par exemple, vous êtes en train de faire bouillir une casserole d'eau, hein, pour faire cuire les pâtes, par exemple, je ne sais pas. Hein, puis vous allez dire à votre enfant, attention, ne touche pas, c'est chaud. Et puis, alors, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas lui l'envie de toucher, pourquoi vous ne voulez pas qu'il touche. Oui, mais c'est chaud. Alors, peut-être qu'il ne comprend pas. Et puis, un jour, il va tester par lui-même, puis il va mettre ses mains, peut-être sur la casserole. Puis ce jour-là, il va comprendre. Il va comprendre parce qu'il aura touché, hein, ce qui était très chaud. Et puis, il aura des conséquences, hein, dans sa vie. Donc là, il va comprendre. Et puis, on peut aussi prendre un autre cas de figure, par exemple. On va dire à nos enfants, voilà, les écrans, c'est mauvais pour toi, donc je te limite. Tu as le droit, jusqu'à un certain âge, de toute façon, tu n'as pas le droit d'écran, puis à partir d'un certain âge, voilà, tu auras droit à une heure, par exemple. L'enfant ne comprend pas forcément pourquoi est-ce que ça lui fait du mal de regarder plus d'une heure. Et puis, vous savez quoi, dans ce cas de figure-là, il aura beau toucher, par le toucher, il va se rendre compte. Il ne peut pas se rendre compte, il ne peut pas comprendre de lui-même. Et pourtant, c'est une réalité. C'est-à-dire que si on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent avec les écrans, c'est dangereux pour eux. Mais physiquement, de lui-même, il ne pourra jamais le constater. Ou dans bien des années. Je dirais quelque part, c'est peut-être un peu la même chose dans ce que Dieu nous demande quelquefois. Il y a des éléments qu'on ne peut pas forcément expérimenter. Mais pourtant, ce que Dieu dit, c'est vrai. Et que même si on ne comprend pas pourquoi Dieu nous met une limite, une barre aussi haute, pour dire ça comme ça, eh bien, ce serait quand même mieux pour nous d'obéir. Même si je ne comprends pas, eh bien, c'est bon d'obéir au Seigneur parce que Dieu sait mieux que moi. Alors, si ce matin, vous ne comprenez peut-être pas tout à fait pourquoi, eh bien, je dois pardonner à mon frère. Pourquoi, je dois, quand il me fait du mal, je dois l'avoir d'abord lui avant d'en parler aux autres, par exemple. Peut-être que je ne peux pas trop comprendre, mais obéis. Parce que ce que Dieu dit, parce que ce que Jésus dit, eh bien, c'est le meilleur pour nous, c'est le meilleur pour la communauté, c'est le meilleur pour l'Église, c'est le meilleur pour nos relations. Alors, je vous disais que si dans ce texte de Matthieu, Jésus va nous donner quand même une explication. On va le lire au travers d'une histoire qu'il va raconter, une parabole. Et Jésus va dire au verset 23, à ce sujet, voici comment ça se passe dans le royaume des cieux. Un roi voulait régler ses comptes avec les administrateurs de ses biens. Pour commencer, on lui présenta un débiteur qui lui devait plusieurs milliards de francs. Et comme ce fonctionnaire n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, le maître donna l'ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants et de le liquider, et de liquider tous ses biens pour éteindre sa dette. Alors ce dernier se jeta à ses pieds et resta devant le roi prosterné, le front contre terre en le suppliant. « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout. » Et le souverain prit de pitié pour lui, le renvoie libre après lui avoir fait cadeau de toute sa dette. À peine sorti, ce fonctionnaire tombe sur un collègue qui lui doit quelques milliers de francs. Il l'attrape, lui serre à la gorge à l'étrangler. « Paie-moi ce que tu me dois !» lui crie-t-il. Son camarade se jette à ses pieds et se met à le supplier. « Sois patient envers moi !» lui dit-il. « Accorde-moi un délai, je te rembourserai !» Mais l'autre ne veut rien entendre. Bien plus, il s'en va et le fait jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce que lui devait. D'autres collègues, témoins de ce qui s'est passé, en sont profondément révoltés et vont rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fait convoquer immédiatement le fonctionnaire qui agit de la sorte. « Espèce de vaurien, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je t'en ai fait cadeau parce que tu m'en as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton collègue comme j'ai eu pitié de comme j'ai eu moi-même pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau pour qu'il le mette en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. Amen. Bon, je pense que cette histoire, vous l'avez déjà lue, hein, que vous la connaissez, mais voilà. C'est quand même, c'est l'explication que Jésus va donner aussi. C'est une des raisons pour lesquelles nous devons pardonner. Et donc, pour qu'on comprenne bien les choses, hein, qu'on ne se trompe pas, juste, donc, dans cette histoire, il y avait le roi, il y a un premier fonctionnaire, après, il y a un autre fonctionnaire, et puis, enfin, avec sa famille, voilà. Le roi, c'est qui dans cette histoire? C'est Jésus, ouais, c'est Dieu. Le premier fonctionnaire, c'est qui? C'est chacun de nous. Qu'est-ce que ce fonctionnaire a? Eh bien, il doit plusieurs milliards à son maître, enfin au roi. Plusieurs milliards. Ce chiffre nous dit quelque chose. C'est-à-dire que moi, toi, eh bien, tu as une dette envers Dieu que jamais de façon tu pourras rembourser. Elle est tellement, la somme est tellement élevée que jamais tu pourras rembourser Dieu. Et parce que tu dois tu as une dette envers Dieu, eh bien, tu es condamnable. Moi, je suis condamnable, toi, tu es condamnable, on est tous condamnables à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Et la valeur de notre péché est tellement immense que de toute façon, on ne sera jamais de nous-mêmes incapable de la payer. Alors, cette histoire nous dit que, en fait, le souverain, donc Dieu, est pris de pitié pour chacun de nous. Et que, parce qu'on lui a demandé, on voit ici que ce fonctionnaire s'est jeté à ses pieds pour lui dire, Seigneur, aie pitié de moi, quoi. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on vient au pied de Jésus, quand on reconnaît qu'on a besoin de lui, quand on accepte qu'il devienne notre sauveur, notre Seigneur, quand on accepte que son sang vient purifier, vient payer le prix de notre péché. Donc, chacun d'entre nous, vis-à-vis de Dieu, on est gracié grâce au sang de Jésus. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, Dieu a barré notre dette vis-à-vis de lui. Notre dette, de toute façon, elle est tellement grande qu'on ne pourrait pas la payer. Voilà l'état. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Eh bien, on voit ce second fonctionnaire qui devait quelques milliers de francs au premier fonctionnaire qui a été gracié. Donc, ce deuxième fonctionnaire, c'est qui? C'est chacun de nous aussi. Et il est possible que, eh bien, on doit, parce qu'on a blessé, par exemple, un frère, une sœur, ou parce qu'on a péché, ou parce qu'on a fait quelque chose de mal, eh bien, on est débiteur vis-à-vis de notre frère. On doit quelque chose à notre frère ou à notre sœur. Et ce qu'on doit à notre frère, à notre sœur, eh bien là, ce n'est pas une somme tellement grande que c'est impossible, là, c'est possible. Quelques milliers de francs, c'est possible de rembourser cette dette-là. Et on voit que ce premier fonctionnaire n'a aucune pitié du deuxième fonctionnaire, c'est-à-dire que le frère que je suis ou la sœur que je suis n'a pas pitié du frère ou de la sœur qui est à côté de moi et qui m'a fait mal. Et donc, elle veut à tout prix que ce soit réparé. Elle veut à tout prix que ce soit réparé. Est-ce que c'est juste? Ou est-ce que, plutôt je vais dire autrement, est-ce que ce serait injuste que mon frère et ma sœur qui m'a fait du mal viennent réparer ce qu'il a fait de mal? Il n'y aurait rien d'injuste. Je dirais presque que c'est normal que si je fais du mal à quelqu'un, j'aille réparer. Mais ici, on voit dans cette histoire que ce fonctionnaire qui en veut à tout prix, qui veut tout prix à récupérer son droit, on va dire, eh bien, enfin, ne veut pas accorder le pardon à ce deuxième fonctionnaire, donc à son frère ou à sa sœur, et puis il veut à tout prix réparation, plutôt que de pardonner. Et Dieu va dire ceci, hein, parce que la conclusion de cette histoire, elle est là, c'est que si tu as cette attitude-là, eh bien, tu n'es pas quelqu'un qui est juste aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois prendre en considération que Dieu, lui, t'a gracié, que Dieu a eu pitié de toi, que Dieu est celui qui te pardonne, eh bien, ta dette, elle est immense. Alors, si ton frère ou ta sœur a une dette, te fait du mal, ce qu'il te fait, comparé à ce que tu dois à Dieu, ben c'est, je ne peux dire que c'est rien, Dieu ne dit pas que c'est rien, mais il n'y a aucune mesure. Et tu dois pardonner à ton frère ou à ta sœur. Et Jésus, dans cette histoire, va dire quand même quelque chose qui est important pour chacun de nous. Il va dire que Dieu va se mettre en colère contre cette personne qui refuse de pardonner à son frère ou à sa sœur. Et parce qu'il refuse de pardonner à son frère ou à sa sœur, eh bien, au verset 35, Jésus, je ne pense pas qu'il dise ça pour rien, je ne pense pas qu'il dise ça parce que ce ne serait pas vrai, je crois qu'il dit ça parce que c'est vrai, Jésus va dire, voilà comment mon Père Céleste vous traitera. Vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout votre cœur à son frère ou à sa sœur. Frères et sœurs, vous pourrez lire aussi Matthieu 6, 14, vous savez, quand Jésus va apprendre à ses disciples à prier, hein, il va donner le Notre Père que vous connaissez certainement tous à peu près par cœur. Et souvent, on s'arrête au Notre Père, cette prière, mais juste après, la prière du Notre Père, Jésus va dire ceci. Si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ça, on rentre dans une des conséquences si on refuse d'obéir à ce que Jésus nous enseigne ici. Je dis, c'est une des conséquences, et certainement la plus terrible quand même. Mais il y a aussi d'autres conséquences. Et je vais pas, je vois qu'il est déjà 11h, donc je vais m'arrêter là ce matin. Mais il y a des conséquences dans nos relations les uns avec les autres, dans la vie d'église, dans la communauté, quand on rentre pas dans cette dimension-là. Et il y a des conséquences négatives quand on rentre pas dans ce que Dieu nous enseigne ici, mais il y a des conséquences positives quand Dieu nous enseigne. Enfin, plutôt, quand nous entrons quand nous acceptons cet enseignement et quand nous mettrons en pratique ce que Jésus nous dit ici. Alors, je reviendrai de nouveau là-dessus. On parlera des conséquences aussi bien d'un côté, conséquences positives, conséquences négatives, mes frères et sœurs. Juste pour conclure, parce que comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est pas encore terminé, mais c'est tellement important aux yeux de Dieu la relation que nous avons les uns avec les autres. Cette relation qui doit être imprégnée de cet amour agapé, tel que défini dans 1 Corinthiens 13. Ce que nous avons vu ce matin, c'est que dans nos relations les uns avec les autres, elles doivent être, cette relation, elle doit baigner dans l'affection, la douceur, comme on l'avait lu dans Galates. Pas pour, encore une fois, je répète, hein, parce qu'il ne faut pas se méprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas pour dire que ce qui est mal serait bien. D'ailleurs, vous savez bien que ça, c'est ce qui arrive, c'est un des versets dans les épîtres, je crois que, je ne sais plus si c'est Paul, mais ça doit être Paul qui dit qu'il viendra un temps où les gens appelleront bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Non, ce n'est pas ça. C'est pas dire que mon frère qui a péché n'a rien fait. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est avec, encore une fois, je répète, c'est avec cet amour profond, parfait, qui vient, cet amour que Dieu me communique. Hein. C'est pour ça que dans les Galates, il est dit « Agissez à son égard en homme spirituel sur la conduite de l'esprit. » Ma nature humaine n'entre pas dans ce cadre-là, ne comprend pas ça. Mais ma nature spirituelle, mon être régénéré par l'Esprit de Dieu, me rend capable de vivre cela. Et doit nous rendre capables les uns les autres de vivre cela. Frères et sœurs, nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons nous pardonner les uns les autres, nous devons nous supporter les uns et les autres. Et c'est ce qui est l'Église. Jésus, enfin, dans la Bible, il est dit que, c'est Paul de nouveau, je n'ai pas la référence en tête, mais il nous dit que, c'est dans les Actes des Apôtres, où il est dit que Jésus ajoute à l'Église, c'est lui qui ajoute à l'Église hein, ceux qui sont sauvés. C'est Jésus qui ajoute à l'Église. Ce n'est pas parce que je dis, moi je suis chrétien, je fais partie de l'Église, c'est ça que je voulais dire. Je fais partie de l'Église parce que Jésus reconnaît en moi, enfin, cet esprit qui vient de lui, que je suis devenu cet homme et cette face spirituelle. Jésus reconnaît en moi, voit en moi celui qui agit comme cet homme et cette femme spirituelle. Et je suis ajouté à l'Église. Et dans l'Église, qui est celle de Jésus, qui n'est pas celle, l'Église humaine, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dans cette Église qui est rempli de l'Esprit de Dieu, eh bien, on est capable de s'aimer, alors, de se pardonner les uns des autres, de se supporter les uns les autres. Et parce que justement, on se supporte, parce qu'on s'aime, parce que, enfin, on est dans cette dimension spirituelle, eh bien, on est en train de grandir, en fait. On est en train de grandir. On est en train de devenir ensemble un peu plus le reflet de l'Esprit de Dieu dans cette société. C'est de toute façon ce à quoi nous sommes appelés. Alors, j'arrête là pour ce matin, je vais juste prier avec vous, et puis on va terminer notre culte. Seigneur Jésus, toi tu sais ce qui est le meilleur pour nous, tu sais ce qui est le meilleur pour l'Église. Et Seigneur, c'est vrai que quelquefois on a du mal à comprendre, on a du mal à saisir pourquoi. Pourquoi est-ce que je renoncerai à mes droits, par exemple. Et Seigneur, toi tu sais tellement ce qui est bon pour moi. Tu sais tellement ce qui est bon pour l'Église. Tu sais tellement ce qui est bon pour notre communauté. Moi je veux te prier ce matin, Père. Que tu puisses nous transformer les uns et les autres, que tu puisses me transformer, Seigneur, pour que je sois encore un peu plus grand en toi, un peu plus fort en toi, un peu plus imprégné de ton esprit, un peu plus imprégné de ta sagesse, pas ma sagesse humaine, Seigneur, mais cette sagesse spirituelle, cette sagesse qui vient de toi. Viens transformer ma vie, viens transformer la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, qu'ensemble, Seigneur, nous formions cette communauté qui glorifie ton nom. Pas seulement avec notre bouche, Seigneur, pas seulement avec nos mots, Dieu, mais par tout ce que nous sommes, par nos pensées, par nos actes, et bien sûr aussi par nos paroles, Seigneur. Conduis-nous sur le bon chemin, Seigneur. Merci de nous conduire sur le bon chemin. Merci de nous interpeller, Père. et merci pour ta grâce. Je te bénis, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, rendez-vous mardi en visioconférence avec la Sainte-Seine. Dimanche prochain, on se retrouve ici, bien sûr, pour le culte. Mais dimanche en 15, donc on sera le 22, le 23, je ne sais plus. Moi, le calendrier, j'ai toujours du mal. Heureusement, vous me pardonnez. Mais alors, exceptionnellement, il n'y aura pas de culte ici à Brué dans 15 jours parce que nous, on sera partis pour le mariage de notre nièce, Déo et Destin. Et puis, avec ceux qui seront partis en vacances, ce sera trop difficile de faire un culte ici. Donc, exceptionnellement, dans 15 jours, il n'y aura pas de culte ici. C'est le 23. Et donc, par contre, je vous enverrai des liens pour ceux qui voudraient regarder des cultes sur Internet, bien sûr. Vous ne serez pas sans rien, mais ce ne sera pas ici en présentiel à Brué. Voilà, mais je vous enverrai bien sûr les informations, vous recevrez ça par mail. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi.